Ce matin, on est dans une série sur la lettre aux Hébreux, avec le constat que Jésus est meilleur. Et dans ce parcours, on arrive ce matin au chapitre 12. Alors, je vous invite à ouvrir une Bible, j'espère que vous avez une Bible, et trouver Hébreux chapitre 12. Et je vais lire les premiers 12 versets. Hébreux 12, versets 1 à 12. Ça y est, vous l'avez ? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous a adressé comme des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous avons respecté, nous allons respecter, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre pas profaneur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Lecture de la parole de Dieu. Alors, nous avons ici une prédication qui était envoyée sous forme d'une lettre. Cette livre, l'Épître aux Hébreux. Une lettre qui était une prédication donnée à une assemblée qui vivait un moment très difficile. Une assemblée qui était découragée. Et en fait, au fond de ce découragement, ils avaient une question assez simple. Si Jésus est si bon, et si puissant, et si merveilleux, pourquoi la vie chrétienne est si difficile? Pourquoi ma vie en tant que disciple est si difficile? Alors, je viens de saluer plusieurs ce matin et tout le monde dit oui, ça va très bien. Donc, peut-être on est ici dans le sud, tout va bien. Hein. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est en tant que de chrétien? Parfois, il y a la question qui se pose, mais alors, si Dieu est si bon, si Jésus est si magnifique, pourquoi quand même ma vie est difficile? En fait, si je pensais qu'on avait beaucoup plus de temps de discuter, je pense beaucoup ici, vous avez connu cette question. Peut-être ce matin, vous êtes là. C'est une question bien réelle pour vous. La vie est difficile. Peut-être que vous avez commencé la vie chrétienne. Vous venez souvenir du un peu de début et c'était génial. Vous avez le zèle, la joie. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein? C'est beaucoup plus fade, beaucoup plus difficile et vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en recherche. Vous êtes en train de réfléchir, est-ce que la foi chrétienne, elle est cohérente? En fait, vous constatez aussi que les chrétiens, ils n'ont pas toujours les vies faciles. Alors, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça vaut la peine, même si ça va être difficile? Et pour cette communauté, ce n'était pas une question juste théorique comme ça. En fait, ils avaient connu un cadre bien sécurisé. On pense que la plupart de ces gens dans cette église, ils avaient connu le judaïsme. C'était bien dans une synagogue, où il y avait une certaine protection, même juridique à l'époque. Ils avaient leur rite, ils avaient leur sacrifice, il y avait toute une communauté. Et puis, ils avaient entendu le message de Jésus. Jésus, il est meilleur. Et ils ont accepté. Et ils ont quitté tout ce contexte qu'ils connaissaient très bien, ses traditions, ses habitudes, pour suivre Jésus. Il n'y avait plus de temple. Jésus était le temple. Plus de sacrifice. Jésus lui-même était le sacrifice. Tout était centré sur lui. Mais ici, il y avait Jésus, mais il n'avait plus la protection juridique. Et vis-à-vis de la société, c'était nettement moins bien vu de suivre ce Jésus. Et au fil du temps, les attitudes autour ont commencé à devenir de plus en plus difficiles. Il y avait une montée de persécution. En fait, il va dire dans le verset 4, si vous voyez, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » La plupart des commentateurs pensent qu'il n'y a pas vraiment un contexte de persécution. Ça n'est pas encore résisté vraiment contre la persécution autour de vous. Plutôt, vous êtes tenté de revenir et retrouver une vie tranquille et confortable, mais en faisant ça, de quitter Jésus. Et alors, l'auteur veut encourager. Et donc, vous avez déjà vu ça avec les messages précédents, à quel point... Finalement, Jésus, il est meilleur, il est supérieur. Et ici, on arrive vraiment au concret, davantage. Il a présenté avec une belle théologie Jésus comme le grand prêtre. Et ici, il revient et vraiment nous encourage ce matin avec un meilleur encouragement. Et c'est ça que j'aimerais bien voir avec vous ce matin. En fait, c'est intéressant comment il le fait. Il nous donne trois images, trois tableaux de comment comprendre la vie chrétienne. Donc, on va voir ces trois tableaux. Et pour chaque tableau, il nous donne plusieurs encouragements et exhortations, les choses à faire. OK? Donc, on va voir ces trois tableaux et chacun donne une sorte de perspective vraiment très importante par rapport à la vie chrétienne. Ensuite, les encouragements. Alors, premier tableau. C'est le tableau d'une course. La vie chrétienne est une course. Et vous voyez ça en verset 1. Alors, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et le mot épreuve, là, c'est le mot course. Dans les temps, ils faisaient des courses à pied, les jeux, etc. Et du coup, je ne sais pas comment vous voyez la vie chrétienne. On peut dire beaucoup de choses, non? Une nouvelle vie, une nouvelle relation, voilà. Mais l'auteur nous rappelle ici que la vie chrétienne est comme une course. Si vous êtes chrétien ici, vous êtes inscrit d'office dans une course. Il y a une épreuve devant vous. Alors, vous imaginez, alors je sais qu'il y a certaines qui aiment la course à pied ici, j'imagine qu'il y a aussi d'autres, ça ne vous parle pas trop, mais... Imaginez que, comme cadeau, vous recevez un dossard pour le marathon de Toulouse. Et vous connaissez absolument zéro par rapport à un marathon. Aucune idée. Le mot ne veut rien dire. C'est un beau dossard, même le prénom dessus. Rendez-vous, rue de Strasbourg, c'était quoi, le 10 novembre. Et du coup, OK, on va y aller. Et vous voyez les postes qu'on appelle la poste de ravitaillement. Ah, d'accord, la nourriture, peut-être ce sera une sorte de festivals gastronomiques. Tu vois un peu des bandes et des groupes de musique. Ah, c'est une sorte de street party, une fête dans la rue. Hein, vous êtes là avec les autres, il y a une bonne ambiance, c'est bien. Et alors, ping, vous avez la ligne de départ et ça sonne et tout le monde commence à courir. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, encore 40 kilomètres à faire. Ça serait quand même une certaine déception. Hein, non? Peut-être si... Ou même si vous pensez quelque chose de très confortable et très tranquille, ce serait assez rude. Mais vous savez, il y a des chrétiens. Jésus, très bien. Mais vite, on a l'impression que, en fait, l'objectif de Jésus dans ma vie, c'est d'avoir une vie confortable. C'est une sorte de balade gastronomique sur le plan spirituel. Ça va être très tranquille, tout va aller bien, Jésus va me toujours rendre la vie confortable et bien. Mais on se trompe, pourquoi? Il nous met dans une course, cette épreuve qui nous est proposée. Et si vous avez accepté Christ, vous êtes dans une course. Vous êtes en train de courir un marathon. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça vaut la peine, c'est une course magnifique, mais une course implique les difficultés, non? Et du coup, tout de suite, il nous donne des choses à faire, des encouragements. Vous voyez, le premier, c'est de se rappeler qu'on n'est pas les premiers. On a des modèles qui nous ont précédés. En fait, vous venez de voir dans le chapitre avant, Hébreux chapitre 11, on a toutes ces personnes qui ont eu à leur époque les courses de foi. Ils ont couru des marathons extraordinaires. Et c'est juste magnifique ce chapitre 11, non? De voir comment le peuple de Dieu dans l'histoire, il dit c'est comme une grande nuée de témoins. On est entouré par une nuée de témoins. Ces témoins qui témoignent de quoi? Du fait que Dieu est fidèle, que ça vaut la peine. Parfois la course est longue, parfois la fatigue est là, mais ça vaut la peine. D'ailleurs, vous avez vu ça la semaine passée, il y a deux semaines. Hein. L'exemple de Noé, c'est fort. Hein. Dieu a dit, Noé, je vais juger le monde, d'abord il faut construire un énorme bateau. Le projet durait une centaine d'années. On est plutôt dans un marathon, non? Plutôt lent, ultra-marathon. Et Noé là, il avance. Année, je ne sais pas, 36, il continue, il fait confiance à Dieu, le bateau avance. Vous avez dans les travaux, pas ici dans l'église, hein, ce sont les travaux traînent, non? Vous avez des rénovations à la maison, punaise, 6 mois, 8 mois, 100 ans. Et Noé, il restait fidèle, il courait, il continuait. Ou Abraham, 25 ans entre le temps où Dieu a donné la promesse et Isaac est né. L'histoire de Abraham. C'est une course, c'est pas évident, mais il persévérait. Moïse, prince d'Égypte, il quitte, il fuit, 40 ans dans le désert, avant que Dieu l'appelle pour une mission. Il restait fidèle, il avait les yeux fixés sur Dieu, et nous aussi. Vous avez dans les situations, ça dure, des courses, ça... Savez, si on a quelques gens qui aiment le trail ici, hein, c'est des courses en montagne. Et si vous êtes un trailer, vous savez, avant une course, c'est toujours intéressant de regarder le profil dénivelé. C'est où on va voir les montées et les descentes. Et moi-même, je préfère les descentes que les montées. Et du coup, c'est toujours intéressant. Parfois, il y a des grosses montées. J'avoue, ici, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Dieu ne donne pas à l'avance le profil de dénivelé pour la course de la vie chrétienne. Peut-être que vous êtes là ce matin et ça va très bien. Vous êtes en descente, ça roule. Mais peut-être dans quelques mois, quelques semaines, Dieu a une belle montée devant vous. Peut-être vous êtes en montée ici. C'est une course, ça fait partie. Et un jour, on va arriver. Donc, regardons ces témoins autour de nous. Aussi, une deuxième exhortation. Courons léger. Vous voyez ça, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant. Intéressant, hein? Cet auteur, il est un bon pasteur, il sait très bien ce qui nous arrive souvent. On peut voir des fardeaux qui nous pèsent et qui nous ralentissent dans la course. Oui, il commence avec tout fardeau. Ensuite, il parle du péché. On peut avoir des deux. Hein? Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une course bien chargée. Ce n'est pas très agréable. Là, avant, j'ai découvert le trail moi-même. Avant, je faisais un peu la randonnée. Et je me suis, quand j'étais étudiant à l'IBG, j'ai fait le tour du Mont-Blanc. C'est une randonnée avec un gros sac à dos. En fait, j'ai un peu cette faiblesse. Je vais toujours apporter des trucs. Ah, il faut ça. Ah, un bon fromage, un truc. Et puis, j'avais toujours le sac bien rempli. Et je me souviens très bien, après 2 jours, j'avais des genoux, mais juste en compote. C'était, ah, ça faisait mal avec le gros sac. Et là, maintenant, avec le trail, j'ai découvert une autre façon de faire. J'aime bien faire maintenant tout le tour. Dans 3 jours, je prends une carte bancaire, un changement de vêtements, de chaussettes et tout. Petit gilet, et c'est génial. Je vois les autres avec les gros sacs, boum, boum, boum. Mon type, il parle avec des gars, ils avaient encore 3 jours pour arriver à Chamonix. Ils m'ont dit, et vous allez où? Ce soir, je serai à Chamonix, hein, parce qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin lorsqu'on nous courons léger. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Et peut-être même ici, il y a des choses, c'est pas les péchés, mais les choses, il faut se débarrasser afin que tu puisses être libéré de courir plus léger la course que Dieu a mis devant vous. Soyons attentifs un peu à la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies, des activités, peut-être on fait trop, ou même le sport, ça peut être. À un moment dans ma vie, j'ai dû diminuer le sport parce que ça prenait trop de place, devenir un fardeau pour ma course avec Christ. Les réseaux sociaux, le travail, on accepte plus en plus de responsabilités. À un moment donné, notre vie chrétienne devient assez secondaire. Soyons courageux, déposez les fardeaux et courons léger. Mais aussi les péchés qui nous peuvent entraîner une addiction cachée, une habitude qui est quand même de l'ordre du péché. La volonté de Dieu, qu'on soit léger et libéré. Et peut-être là, il faut en parler, il faut faire quelque chose. Parce que vous savez, vous portez quelque chose de trop lourd, c'est pas ce que Dieu vous souhaite. Et ensuite, et peut-être plus important, courons avec le regard fixé sur Jésus. Verset 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. C'est quand même extraordinaire ce qu'il dit. Jésus, c'est pas juste l'exemple, il est. Jésus qui était le premier à courir finalement cette course, on voit dans le verset après, il a méprisé la honte de la croix pour la joie qui était devant lui, lui qui a tracé la voie. Mais vous avez constaté sur Jésus qui fait naître la foi en nous et l'amène à la perfection. Jésus est une sorte d'entraîneur, mais bien plus, hein. Un entraîneur, il peut te donner des conseils, mais il ne peut pas faire naître la foi et la mène à la perfection. Mais Jésus a fait ça pour nous. C'est tellement beau. Il continue. À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix et ayant méprisé la honte, est assis à la droite de Dieu. Jésus voyait la joie qui était devant lui. Et c'est intéressant parce que Jésus avait déjà connu la joie avant de venir vers nous. Avant de prendre la forme d'un homme, avant d'aller à la croix. Alors, c'est quoi cette joie que Jésus voit devant lui? Alors, le texte ne le précise pas. Dans le contexte, c'est la joie d'avoir un peuple racheté pour lui. C'est la joie d'avoir toi et moi avec lui dans cette vie parfaite. Ça, c'est quelque chose. Hein. On regarde, on est fatigué, on regarde à Jésus pour notre joie, afin de nous sauver, il a enduré la croix et a jusqu'au bout. On avait rappelé ce matin, il a pris notre place. D'ailleurs, je me souviens une fois, c'était avant un marathon, j'avais une sorte de rêve, un peu moitié rêve, moitié je pense imagination. Je me trouvais dans le bloc de départ pour un marathon, tout près, et j'avais quand même cette conviction profonde, il fallait que je fasse ce marathon en 2h20. Sinon, tu t'étais perdu. Moi, je ne peux jamais courir un marathon en 2h20. Hein, je pense personne ici non plus. Hein, c'est vraiment... Et j'étais sous cette pression. J'ai dit, je vais tout essayer, mais je ne vais pas arriver, c'est sûr. Et puis, il y a un monsieur qui vient vers moi, un coureur, et je le reconnaissais un peu, c'était un élite, un coureur professionnel, et eux, ils peuvent arriver à courir un marathon dans 2h20. Il est venu vers moi, il dit, vous êtes monsieur Niblack? Oui, c'est moi. Et, si vous acceptez, je peux porter votre dossard sur moi. Et c'était comme, j'ai jamais pensé que c'était possible. On peut transférer les dossards, mais dans les rêves, c'est pas ça. Et, si vous voulez, hein. Et je dis, oui. Donc j'ai enlevé mon dossard, j'ai remis. Et puis le marathon commence et je vois ce gars qui donne tout, qui court et il est dans les temps. Il y arrive à 22h20 et je me suis cette joie. Il porte mon dossard, hein, c'est moi, c'est David Niblack à la fin, 2h18. Ouais, mais puis je me suis réveillé. Hein, c'était. C'est ça, là, c'est ça ce que Christ a fait pour nous. Hein. C'est ça que Jean-Philippe nous a rappelé au début. Christ propose de prendre sur lui notre dossard pour la course la plus importante dans la vie. Il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et il prend sur lui et par sa mort, il paye le prix, par sa résurrection, il prouve, il a gagné et il nous propose ça. Il est celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et il n'est pas juste un entraîneur du hockey, plus forte, vas-y, je vais te donner plein d'exercices d'entraînement. Oui, il nous encourage, mais il a fait le gros boulot pour nous. Il a déjà gagné la victoire. Et c'est tellement différent. On peut courir en sachant que la course est déjà gagnée parce que Christ l'a fait pour nous. Ah, et quel encouragement lorsqu'on est fatigué, non? Et je pense que ça, c'est le plus important, de courir avec les yeux fixés sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il est facile, non? De commencer à avoir les yeux fixés sur nous-mêmes ou les yeux fixés sur nos problèmes. Hein? Si vous êtes comme moi, hein? Souvent, c'est les problèmes qui attirent mon regard. Au lieu de fixer les yeux sur Jésus par la foi, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour moi et cet encouragement immense qu'il nous donne. Une course, vous avez compris? La vie chrétienne est une course. Okay. Plus rapidement, encore deux autres tableaux. Le deuxième tableau, c'est que la vie chrétienne est comme une famille. C'est comme une famille avec un père qui corrige. Et verset 5, vous voyez, vous avez oublié l'encouragement qui vous était adressé comme des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que vous êtes des fils légitimes. Et vous avez tous, j'imagine, fait l'expérience d'être dans un parc ou quelque chose et vous voyez plusieurs familles et des gamins. Et lorsqu'un gamin commence à faire vraiment faire des bêtises, quelqu'un se lève et dit « Arrête Thomas, pourquoi tu fais ça ?» Et il commence à le corriger. Tu sais tout de suite que c'est le parent, non? On va pas corriger comme ça les autres gamins. Hein, on va dire « Dommage qu'ils sont mal éduqués, mais on corrige nos enfants. » Alors, mettons à la place de l'enfant. C'est un peu n'importe quoi. Tous les autres parents me laissent tranquille. Ils sont très gentils, souriants. Et c'est mon père qui vient m'embêter et me corriger. Comment ça se fait? Tous les autres m'aiment plus que mon père. C'est pas normal. En fait, le contraire. Lorsqu'on aime, on veut que l'enfant change. On n'accepte pas les bêtises. Et vous savez, Dieu est pareil. Il nous aime tellement, il ne va pas nous laisser juste comme nous sommes. Il a un projet pour nous. Il nous corrige dans son amour. Et ça, c'est important. Il compare les pères terrestres avec le père céleste. Vous voyez verset 10, nos pères nous ont corrigés pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien. C'est important de marquer ces deux choses bien un peu différentes. Et peut-être vous êtes là, vous avez une famille vraiment en bonne santé, un père qui était bienveillant, qui en corrigeait avec amour. Peut-être vous êtes là et vous n'avez pas eu une bonne relation avec votre père. Peut-être il était dur, absent, même violent. C'est important de voir que le modèle est Dieu. Et là, il faut regarder des bons modèles peut-être autour de vous. Dieu est un père parfait. Il ne nous punit pas lorsqu'il nous corrige. Ce n'est pas parce qu'il juge ou il veut nous punir dans un sens de juste parce qu'on a fait des mauvais choix. Il est toujours dans une approche de bienveillance, de nous corriger afin que nous puissions changer et avoir cet fruit de justice et de paix dans nos vies. Et du coup, ça aussi, ça soulève des questions un peu importantes, non, pastorales. Comment je sais si Dieu est en train de me corriger? Là, je pense qu'il juste faut éviter deux pièges, de penser que toute souffrance est forcément la correction. Non, c'est faux. Ça, c'est important. La Bible nous donne une vision complexe de la souffrance. Il y a plusieurs raisons. Et ce n'est pas juste que si la vie est difficile, ça veut forcément dire que Dieu est en train de me corriger. Je pense à l'autre piège de dire que Dieu ne me corrigerait jamais. Visiblement, c'est faux. Je pense parfois, c'est avec le recul, on voit, et j'ai pas le temps, mais je pourrais raconter plusieurs situations dans ma vie où, avec le recul, je pense que Dieu, dans sa bienveillance, me corrigeait. J'ai fait des choix et j'ai vécu des difficultés par la suite. Et ensuite, je suis revenu et j'ai pu vivre des moments de repentance. Et je suis reconnaissant aujourd'hui pour ce que Dieu a fait dans ma vie comme ça. Et peut-être vous pouvez aussi, dans des groupes de maison, discuter de ces questions. Comment discerner? Et comment moi, je peux avoir une bonne attitude? Je pense que l'exhortation est quand même claire ici. Acceptons. Peut-être il y a quelque chose et vous que ça soit fini, Dieu, enlève-moi cette situation. Peut-être c'est exactement dans cette situation que Dieu va produire quelque chose de magnifique dans ta vie. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Dire, ok Seigneur, j'avoue, je ne suis pas encore arrivé. Il y a des choses que tu veux changer dans ma vie, j'accepte. Change-moi, aide-moi d'avoir une bonne attitude. Aide-moi dans cette situation à ressembler davantage à Christ. Et aide-moi à te faire confiance. Vous savez, c'est une preuve que vous êtes une fille légitime. Dieu vous aime, il ne veut pas vous lâcher. Si Dieu vous aime, si vous êtes adopté dans sa famille, il va se mêler dans ta vie. Et, rappelons-nous, c'est une preuve de son amour et que nous sommes vraiment des enfants légitimes. Du coup, deuxième tableau, une famille. Alors, acceptons la discipline bienveillante de notre Père Céleste. Et puis, troisième tableau, on est une équipe ensemble, une équipe. Alors, vous dites, David, je ne vois pas l'équipe dans ces versets. C'est vrai, le mot n'est pas utilisé, mais nous voyons quand même que l'auteur vraiment s'adresse à une communauté. Il encourage la communauté à veiller les uns sur les autres. Vous voyez, rechercher la paix avec tous, les uns les autres. Verset 15, veiller à ce que personne, encore verset 16, veiller. Donc, ça, c'est important, hein, parce qu'on a parlé des marathons, hein, la course, qui est un sport bien individuel. Mais ce n'est pas le cas avec la vie chrétienne. Ce n'est pas juste moi, avec mon petit dossard, je fais ma course individuelle. Pas du tout. En fait, nous sommes une équipe ensemble. Nous courons ensemble. Et nous avons vraiment besoin des uns les autres pour nous encourager et veiller les uns sur les autres. Vous voyez comment il commence? Je trouve intéressant. Il encourage les chrétiens à rechercher la paix avec tous. Ah, c'était des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament, c'était de paix, c'est shalom, une paix qui est complète. Rechercher cette paix avec tout le monde. Et, prochaine chose, la progression dans la sainteté. Vous voyez cet axe horizontal, vivant en paix les uns avec les autres, mais aussi recherchant la sainteté avec Dieu. Et parfois, on peut avoir une certaine tension entre les deux choses. Si on pense que la sainteté, il faut que je sois comme Dieu, peut-être on peut vite dire, ok, veiller sur mes autres, ça veut dire que je vais toujours trouver tout ce qui ne va pas chez l'autre pour l'aider dans sa démarche de devenir plus comme Christ. Et parfois, il faut. Mais il commence quand même avec cette idée, l'objectif, c'est de vivre avec paix. C'est d'avoir des relations qui sont saines et qui sont paisibles et qui sont marquées par la grâce et l'amour. Mais ne pas oublier qu'on a aussi appelé à rechercher la sainteté, à ressembler plus comme Christ. Ensuite, il nous donne ces exhortations. Vous voyez un peu comment vivre en équipe ensemble. Verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. » En fait, là, il fait écho à un texte de l'Ancien Testament, en Deutéronome, où Moïse avertit le peuple de veiller à ce que quelqu'un ne tourne pas vers les idoles dans la communauté. Et là, on a ce même responsabilité de veiller les uns sur les autres. Vous avez capté comme il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et c'est beau aussi dans l'autre sens. On a besoin que les uns les autres nous rappellent la grâce de Dieu. On ne peut pas se priver. Dieu est rempli de grâce. En Jésus, on a une source infinie de grâce. Mais on peut se priver. Et en fait, c'est ça qu'on venait de faire ce matin. On chantait la grâce de Dieu, non? Les chants n'étaient pas juste pour moi, pour toi, c'était pour tout le monde. Partager. Rappelons-nous la grâce. Et on a besoin les uns les autres pour se rappeler la grâce de Dieu, afin de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Donc, vous ici, vous avez chacun, un don, une capacité un peu unique de rappeler la grâce de Dieu aux uns les autres. C'est beau, hein? Moi, je mets toujours les agapes dans les églises, surtout ici en France. On mange mieux ici en France, hein? Et les agapes, c'était intéressant de goûter les différentes tartes de chaque famille. Et vous êtes forts, hein? Et je pense comme chaque maman ou chaque famille avait une tarte un peu différente, non? Avec un goût un peu différent, et ça amenait quelque chose de riche. Un peu comme ça, vous avez ici chacun une capacité à encourager les autres avec la grâce de Dieu, à témoigner, à se rappeler, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Donc partageons cette richesse. On a besoin les uns des autres, on n'est pas seul. Et puis verset 16, veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre pas profaneur comme Ésaü, qui a pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Et là, il rappelle l'histoire. Ésaü, dans l'Ancien Testament, qui lui, il était finalement héritier des promesses de Dieu en tant qu'aîné. Il avait connu les promesses de Dieu. Et Dieu avait promis à sa famille, la descendance, toute une terre, un pays, une descendance extraordinaire. Ésaü, un jour, il avait très faim, et son petit frère Jacob était là. Il avait préparé un bon repas, un bol de soupe, et Ésaü avait faim. Il dit, mais est-ce que je peux manger ta soupe? Il dit, oui, mais il faut que tu échanges avec moi ton droit d'aînesse. Il acceptait, disons, c'était pas un bon deal. Hein. Pour un repas, il a vendu un peu les promesses de Dieu. L'auteur il rappelle cette histoire, qu'on peut être dans la même situation. Dieu vous a donné des promesses. Si vous êtes en Christ, vous avez des promesses extraordinaires. Vous avez un avenir extraordinaire. Mais c'est à la fin de la course, c'est à l'arrivée. Et peut-être on peut tenter d'échanger, dire moi je veux faire les choix sexuels que je veux vivre comme je veux, et on accepte d'échanger toutes les promesses de Dieu d'une vie éternelle avec lui pour juste un bol de soupe, quelque chose de petit et minime. Et du coup, il nous encourage de ne pas faire comme Ésaü, de rappeler à quel point les promesses sont précieuses et valables et rester ancrées dans la grâce de Dieu. J'ai compris les trois tableaux. Une course, alors courons avec persévérance. Une famille, alors acceptons cette discipline de notre Père. Et ensuite, une équipe. Donc, encourageons-nous mutuellement à continuer à persévérer. Ces trois choses nous donnent vraiment un encouragement meilleur. En Christ, on a un vrai encouragement. Je termine avec ça. Quand j'étais pasteur, je me souviens, j'ai demandé le droit de prendre un mois pour en sabbatique de faire la mission court terme. Et du coup, une fois, j'étais en Afrique du Nord, en Libye, dans une église composée principalement des subsahariens, et ils vivaient un moment très difficile. C'était avant la chute de Kadhafi, c'était très, très compliqué pour eux. Le type à la fin disait, alors sortez par cette rue-là, parce qu'il y avait la police, beaucoup n'avaient pas les papiers, sortez plutôt de cette route-là. Mais ils avaient une joie, un enthousiasme ensemble qui m'a marqué. Ensuite, je suis retourné aux États-Unis, j'habitais à la région de Chicago, et je me suis dit, j'étais avec mes amis non-chrétiens, tout n'allait pas bien. La politique américaine, c'était nul, les prix étaient en train d'augmenter, la vie était difficile, ça n'allait pas. Et en fait, le contraste, ça m'a tellement marqué. Un groupe en Afrique du Nord, ils avaient quasiment rien, pas de sécurité, pas beaucoup d'argent, difficultés, mais ils avaient Jésus. Et mes amis aux États-Unis, ils avaient beaucoup. L'argent, le confort, ils n'avaient pas Jésus et ils étaient découragés. Alors, témoignez du fait que Jésus nous donne un meilleur encouragement. Non, c'est vrai. On a vu, l'Église autour de du monde manifeste une joie, c'est une réalité. Jésus peut nous encourager, il sait nous encourager. Donc, vivons avec ce meilleur encouragement que Jésus nous donne. Je prie. Seigneur, merci. Merci comment tu as... Comment tu sais nous encourager. Tu nous connais parfaitement, tu connais nos faiblesses, tu étais tenté comme nous. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici ce matin, en particulier peut-être ceux qui sont dans un temps difficile, qui passent par les moments de découragement, ou est-ce que ça vaut la peine de continuer la vie chrétienne? Oh Seigneur, sois avec eux, encourage-les, aide-nous à simplement peut-être simplement de continuer, on est là, on court, on avance, juste de continuer simplement avec la vie chrétienne avec toi. Et Seigneur, merci pour cette assurance qu'un jour on va arriver, on sera dans ta présence, on va te voir face à face, on va célébrer ensemble avec tous les saints de tous les âges cette victoire. Seigneur, merci. Encourage-nous pour la gloire de Jésus. Amen.